Chapitre 59. 1999. 4 ans de mariage. Nina n'a que 23 ans, elle en paraît 30. 2 ans qu'Emmanuel essaie de lui faire un enfant, mais elle n'en veut toujours pas. Elle prend des traitements hormonaux pour augmenter sa fertilité et rien ne se passe. Des protocoles lourds qui la font grossir, lui donnent des nausées. Elle a le visage bouffi, ne se regarde plus dans les miroirs. Emmanuel et elle ont fait des batteries d'examen. Rien ne semble déconner, sauf eux. Nina n'appelle plus Adrien et Étienne une fois par semaine. Les choses se sont espacées peu à peu. On rate un dimanche parce qu'on n'est pas là, puis un deuxième parce qu'on oublie ou qu'on est malade. Les mots d'absence de la vie. Quand la séparation entre dans les habitudes, les « à quoi bon ? Après tout, on n'est plus des gosses. » Et puis, là où on vit, on se fait toujours de nouveaux amis. Pour Étienne, ce sont des collègues. Pour Adrien, des acteurs, metteurs en scène, auteurs. Sa pièce, Les Mères, a été un succès. Depuis, il en a écrit 2 autres, dont une a été achetée par le Théâtre des Abbesses. Ce sera l'événement de septembre 2000. Alors, quand le téléphone sonne chez Nina ce matin-là et qu'elle reconnaît la voix d'Adrien, elle pense à quelque chose de grave. Sinon, pourquoi l'appellerait-il en semaine ?
Tu vas bien ?
Commence-t-il. Oui, ça va.
Pourquoi tu parles tout bas ?
Parce que la cuisinière écoute aux portes.
Pourquoi ?
Parce qu'elle ne m'aime pas.
Tout le monde t'aime, Nina.
Tout le monde m'aimait quand j'étais jeune.
Tu es toujours jeune.
Tout le monde m'aimait quand j'étais petite, si tu préfères. Pourquoi tu m'appelles ? Tu vas bien ? Nina retient son souffle en attendant la réponse.
Oui.
Et Étienne ?
Oui, je pense qu'il va bien aussi.
Alors pourquoi tu m'appelles, Adrien ? On n'est pas dimanche ?
La nuit dernière, j'ai repensé à quelque chose. J'ai caché une sacoche chez ta maman.
Quelle sacoche ?
Celle de ton grand-père. Je l'ai trouvée sur un banc le jour de l'accident. Dans la panique, quelqu'un avait dû la poser là. Je l'ai prise. Et quand je suis arrivée chez ta maman pour t'emmener à Marseille, avant d'entrer dans ton bureau, je l'ai planquée dans une pièce, sur une étagère.
Adrien, ça fait 5 ans. Pourquoi tu ne me l'as pas dit avant ?
J'avais oublié. Mais cette nuit, j'en ai rêvé. Un rêve tellement bizarre, comme si...
Comme si quoi ?
J'ai rêvé de lui. Pierre me parlait. Et dans mon rêve, il me disait de te le dire, pour que tu la retrouves. Une porte plus petite que les autres, pas très loin du bureau où je t'ai trouvé ce jour-là. Il y avait des boîtes partout, des cartons aussi. Je me souviens d'un poster punaisé au mur, des montagnes ou un lac, en tout cas un paysage.
Les indications d'Adrien étaient bonnes. Nina n'a pas à chercher longtemps. Se juche sur une table. Et la voix. Personne n'y a touché. 5 ans qu'elle dort là, dans l'ombre et la poussière, sur la 5e étagère contre le mur de gauche. Elle est en partie écrasée. Maintenant que Nina la tient dans ses mains, elle tremble, réfléchit. Elle est bouleversée, n'ose pas l'ouvrir. De temps en temps, une ampoule nue l'a sans doute éclairée, mais jamais une boîte à archives n'a été placée à cet endroit inaccessible. Comment Adrien est-il parvenu à la percher si haut ? Plus tard, il lui racontera l'avoir jetée là avec l'énergie du désespoir. Nina caresse le cuir. À l'heure où son grand-père s'est éteint, il lui restait quelques rues à distribuer. Ce qui signifie qu'elle doit encore contenir du courrier. Elle la serre contre elle, la dissimule sous son manteau et quitte les bureaux sous le regard curieux de Claudine, une ancienne collègue. La seule qu'elle ait croisée en arrivant chez Damam, le cœur battant. Nina lui a dit qu'elle avait besoin de retrouver un vieux sac oublié sur une étagère, juste avant son mariage, quand elle travaillait avec Yves-Marie Le Camus. Nina a parlé sans s'arrêter, pendant que l'autre la dévisageait. Elle a vu dans ses yeux qu'elle avait eu du mal à la reconnaître lorsqu'elle était entrée. « Vous avez trouvé ce que vous cherchiez ?» Nina sursaute. Elle avait presque oublié la présence de Claudine. « Oui, merci beaucoup. » Ne dites surtout pas à Emmanuel, enfin à mon mari, que je suis passée. Je lui prépare une surprise. Motus et bouche cousue. Qu'est-ce que vous étiez beaux tous les deux le jour de votre mariage ? Nina sent que Claudine la détaille de la tête aux pieds. Que reste-t-il du jeune cygne gracile? Nina ignore même où se trouve sa jolie robe ivoire, sans doute perdue entre deux cartons, deux réaménagements, deux rangements, deux armoires neuves. C'est une obsession chez Emmanuel de changer de décor, d'acheter, de bazarder ou de bouger les meubles de place, de faire des feux dans le jardin pour brûler les vieilleries. « Oh, doux Jésus, vous êtes enceinte !» s'exclame Claudine en fixant les rondeurs de Nina, dont la sacoche qu'elle dissimule contre sa poitrine sous son long manteau. Nina est incapable de répondre. Elle pâlit, baisse les yeux en marmonnant. « Non. Au revoir. » Puis elle s'enfuit comme une voleuse, monte dans sa voiture, redémarre et quitte rapidement le parking, de peur de croiser Emmanuel. Aucune raison puisqu'il est en déplacement. Avant, lorsqu'il partait, elle se languissait. Maintenant, elle jubile quand elle lui prépare une valise pour la semaine. Une perspective de repos et de soulagement. Le poids qui pèse sur son estomac se lève. Nina ne travaille pas, mais elle est tout le temps fatiguée. Elle a posé la besace du facteur sur le siège passager. Elle a le sentiment que son grand-père est près d'elle, tout abîmé, comme aplati. Voilà ce qu'il reste de cet homme, une preuve de sa disparition tragique. Comme sa mère à tout prix, Nina ne possède rien de lui, sauf ses propres souvenirs, pas même un vêtement. Heureusement, dans une boîte, elle a glissé un cliché sépia, la photo de mariage de ses grands-parents. À la fin, Pierre partait en tournée avec deux sacoches, une pour les recommander et l'autre pour le courrier général. C'est celle-ci qu'elle a dans la voiture, celle dans laquelle elle prenait des lettres pour les lire en cachette. Au fond, ce que sa mère lui a laissé en héritage, c'est le vol. Nina n'ose plus regarder la sacoche. Normalement, elle devrait aller à la poste ou à la police pour la rendre. Mais jamais elle ne le fera. Étienne est loin d'en être à son premier interrogatoire. C'est le commissaire Giraud qui mène celui-ci. Bien que titulaire, Étienne reste en retrait, en observation. Histoire banale de vol à la tire. Deux petites gonzesses auxquelles on donnerait le bon Dieu sans confession. Mineure, gueule d'ange, propre sur elle. Une qui arrête un passant pour demander son chemin ou l'heure. L'autre qui s'occupe de faire les poches ou le sac de la victime. Argent, clope, portefeuille en cuir, montre. Il n'y a que cela qui les intéresse. Les papiers, elles s'en fichent, s'en débarrassent dans les poubelles. En revanche, depuis 2 ans, de plus en plus de gens utilisent un téléphone portable et avec la prolifération de ces appareils, un beau marché noir s'est créé à Lyon. Le commissaire espère que les deux filles vont leur permettre de remonter jusqu'au réseau auquel elles revendent les cellulaires. Elles se sont faites attraper par un vigile dans un magasin de luxe, la main dans un sac Louis Vuitton. Elles ont tenté de s'échapper, se sont défendues, débattues, en sont venues aux mains, jusqu'à ce que deux molosses les empoignent et les livrent sur un plateau. Elles nient tout en bloc, sur l'air de « y a erreur sur la personne ». Pourtant, cela fait des mois qu'elles sévissent autour du parc de la Tête d'Or. Elles ont été identifiées et leurs portraits robots correspondent. Émilie Rave et Sabrina Berger. Émilie semble être la tête pensante du duo. Effrontée, elle ne cesse de sourire quand le commissaire pose des questions et de défier Étienne du regard depuis qu'il est entré dans la salle d'interrogatoire. Sabrina est réservée, ne parle pas, baisse les yeux, reste en retrait. Comme elles sont mineures, un avocat les représente. Pas le même profil que les petits voyous qu'ils ont l'habitude de serrer. Deux gosses de riches qui s'amusent à jouer les Arsène Lupin et se comportent comme des putes de luxe. Deux têtes à claque. Leurs parents ne vont pas tarder. Depuis qu'il est dans la police, Étienne a tout entendu. « C'est pas moi, monsieur, j'ai rien fait. C'est la photo-voix que j'ai dans la tête. Elle me commande. J'y suis pour rien, j'ai pas fait exprès. Vous vous trompez sur la personne. C'est mon jumeau. Vous me confondez avec mon frère. » »« T'as pas de frère. » « Si, monsieur, je vous jure, j'ai un cousin, c'est comme mon frère, c'est un sosie. Tout le monde vous dira que j'ai un sosie. J'avais bu, je me souviens plus, j'ai des trous noirs. Je suis somnambule. » Et toujours, « Je jure que je recommencerai plus. » Combien de fois Étienne a-t-il entendu cette phrase ?« Je veux bien tout avouer, » finit par lâcher Émilie, « mais je veux être seule avec lui, là. » Elle désigne Étienne de la main. Tous les regards convergent vers lui. Il rétorque aussitôt. « Je crois pas que tu sois en position de décider quoi que ce soit. »« Pour ce qui est de la position, j'ai mon idée, » lui balance la môme. « Arrête avec ça, si je te presse le nez, il en sort du lait. »« Laissez-moi nez tranquille, j'ai d'autres idées, je vous dis.
Ça suffit, gueule le commissaire Giraud. On n'est pas en train de jouer, là. Vous encourez une peine de prison ferme, mesdemoiselles.
On est mineur, lance Émilie en levant les yeux au ciel. On risque rien.
Tu rêves, ma fille, lui répond Étienne. On a déjà envoyé des mineurs en tôle. Normalement, les minettes comme toi, elles sont séparées des adultes. Mais crois-moi, les cellules sont à touche-touche. Je serai toi, je passerai à table. À moins que ça t'excite de te frotter à des bonnes femmes qui vont t'apprendre la vie.
Je vous prierai de modérer vos propos, le couple avocat.
Étienne ne prête pas attention à l'homme de loi. Il ne lâche plus les deux filles du regard, passant de l'une à l'autre. Giraud le laisse faire. Il a une totale confiance en sa jeune recrue, qui a l'art de faire cracher le morceau, même à des durs. Alors ces deux filles, avec lui, ça va être une promenade de santé. Étienne a un côté impitoyable. Jamais il ne s'emporte. Tout réside dans son regard bleu acier, deux cellules réfrigérantes, lorsqu'il se trouve face à un suspect. « À qui vous revendez les téléphones portables ?» questionne-t-il.
Émilie ne sourit plus, mais ne baisse pas les yeux, défiant toujours Étienne du regard.
« Mon père me laissera jamais aller en prison, » finit-elle par répondre.
« Ton père, il peut rien décider, » réplique Étienne.
« Laisse faire la juge des mineurs. Une teigne comme t'as pas idée, elle va pas supporter ton petit sourire en coin.
Maître, vous devriez expliquer à vos clientes qu'elles risquent gros. On a 100 témoins qui les ont vues à l'œuvre et qui sont prêts à les identifier. Ça fait des mois que leur manège dure. On va commencer par une petite perquisition à leur domicile et après on les confrontera aux victimes pour les faire tomber. Ça va saigner, à moins qu'elles balancent le nom de leur receleur.
Une heure plus tard, c'est plié. Le rapport, comme d'habitude, Étienne le fera taper par une collègue. Un arrangement entre eux. Lui a une haine viscérale de tout ce qui est administratif. En échange, il rend des services, passe des coups de fil à des indiques. Il aime les perquisitions et les filatures, pas taper à la machine. Même si leur commissariat est équipé de quelques ordinateurs, il veut la rue. Traîner dans des bars, poser des questions, observer, planquer, c'est là qu'est sa place. À présent, Étienne sirote une bière sur son canapé en écoutant « Where is my mind ?». Il adore ce morceau des Pixies. Il l'écoute en boucle en pensant à Nina, au rêve de musique passée, au rêve tout court. Il ouvre une deuxième canette en pensant qu'il prend un pied particulier lorsqu'il est face à des suspects. Les pisseuses, c'est rare, mais tellement jouissif à serrer. Pas la peine de faire de la psychologie de comptoir, il sait que c'est en rapport avec Clotilde. Une vengeance personnelle qu'il réitère depuis 5 ans. L'image de la voiture s'enfonçant dans l'eau sombre du lac de la forêt ne l'a pas quitté. Cette voiture, l'a-t-il rêvée ou réellement vue? Dans ce cas-là, à qui pouvait-elle appartenir? Y avait-il quelqu'un à l'intérieur? Qui l'a balancée? Elle? Clotilde n'avait ni permis ni véhicule. Est-ce qu'il a aperçu quelqu'un derrière le volant? Une ombre, peut-être. Pourquoi n'avoir pas dit aux gendarmes de la Comelle qu'ils avaient nagé ensemble ce soir-là? Et qu'ils s'étaient endormis près de Clotilde à cause du whisky, de la fatigue, de l'émotion après l'enterrement de Pierre le matin. Juste dire qu'il avait vu une bagnole dans la flotte, et ce ventre rond.